CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, votre podcast préféré. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis avec Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors aujourd'hui Sylvain, on va parler de l'histoire d'une réussite en famille dans toute sa splendeur. Les quatre frères Warner ont chacun avec leurs qualités propres contribué à construire l'un des plus grands empires cinématographiques mondial. On va découvrir aujourd'hui l'histoire de la création de Warner Bros. Pictures.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors pour commencer Sylvain, l'histoire de la famille Warner commence évidemment par les parents.
Oui, alors les parents Warner, le nom de la famille initiale d'ailleurs c'était Wonsal. Alors je ne sais pas si je le prononce très bien parce que c'était des Polonais qui ont changé leur nom de Wonsal en Warner quand ils sont arrivés aux États-Unis pour américaniser leur nom.
C'était des Juifs polonais.
C'était des Juifs polonais, voilà, Benjamin Wonsal et Pearl Lee Eichelbaum, voilà, on va dire que je le prononce bien, qui sont originaires d'un petit village près de Varsovie et qui ont émigré aux États-Unis. Alors, ils ont bougé un peu entre le Canada et les États-Unis, mais enfin, en Amérique du Nord, à la recherche d'une vie meilleure, comme beaucoup d'immigrants à l'époque. Et d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse, parce que c'est très intéressant de voir que la plupart des grands studios hollywoodiens de l'âge d'or d'Hollywood des années 20 ont été fondés par... généralement des juifs originaires d'Europe centrale qui sont arrivés aux États-Unis avec 3 sous en poche et qui ont commencé en fait, qui ont un parcours assez similaire à celui qu'on va décrire des frères Warner. Donc si on pense par exemple à William Fox, qui lui est originaire de Hongrie, si on pense à Adolf Zukor, le cofondateur de la Paramount, qui est également un juif hongrois qui a migré aux États-Unis, si on pense à Marcus Lowe, à Samuel Goldwyn, à Louis B. Mayer, qui ont tous fondé la MGM, c'est pareil, c'est des juifs d'Europe centrale qui ont émigré aux États-Unis et qui ont suivi tous en fait un parcours assez similaire à celui qu'on va décrire. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce profil type du fondateur des studios hollywoodiens.
Alors, on pourrait dire que Hollywood a été créé par les Américains, mais en fait, on pourrait quasiment dire que ça a été créé par les Juifs européens, quoi.
Oui, on peut même le dire. Hein, c'est la plupart des grands studios ont été fondés par des gens qui ont vraiment ce même profil d'Europe centrale. Alors, il y a des Allemands, il y a Karl Lemle qui était allemand, mais enfin, Europe centrale ou germanique, qui ont émigré aux États-Unis très pauvres et qui ont commencé, comme on va le voir, en exploitant des salles de cinéma et qui petit à petit se sont mis à la production.
Alors, pour revenir à la famille Warner, on va commencer par l'aîné Harry Morris, est né en 1881, donc c'était encore en Pologne.
Oui, alors, il y a eu en tout 5 frères Warner, bon, il y en a un qui est décédé en bas âge. Les 3 premiers, donc Harry Morris, Albert et Sam, donc nés respectivement 1881, 1884 et 1887, sont nés dans ce petit village près de Varsovie et ont émigré avec leurs parents. Et Jack, donc le dernier, qui lui est né au Canada en 1892, parce que la famille s'est implantée d'abord aux États-Unis, puis au Canada, puis est revenue. Ce qui est intéressant avec ces 4 frères, c'est de voir qu'ils ont un peu chacun leur personnalité. Et chacun dans l'entreprise va jouer un rôle qui lui est propre.
Et qui est bien défini avec leur personnalité. Donc c'est vraiment le fait qu'ils soient 4 et qu'ils aient chacun leur personnalité différente qui va contribuer au succès de Warner Bros.
Oui, voilà, c'est chacun va apporter sa petite pierre. Alors on verra que des fois il y aura aussi des frictions. Mais en tout cas, on a 4 frères avec chacun leur spécialité. Donc Harry Morris, l'aîné, lui, c'est le chef, c'est la tête froide, c'est celui qui prend les décisions importantes quand il faut. On a Albert qui lui le deuxième qui est plus timide, plus réservé, donc lui ça va être le comptable, le gestionnaire, celui qui est un petit peu dans l'ombre. Il y a Sam qui jouera un rôle absolument déterminant, qui lui est l'inventeur.
Ouais, c'est l'innovateur.
C'est le bricoleur, c'est l'innovateur. On va voir que la Warner a été totalement pionnière dans le cinéma. Et Jack, qui est le petit dernier et le vilain canard, qui est un peu coureur, un peu flambeur, qui va avoir des brouilles avec ses frères, on le verra par la suite.
Et donc, du coup, ces 4 frères, jeunes, ils ont pas une superbe scolarité, un maigre bagage scolaire. Ils s'en sortent pas trop à l'école, donc ils décident rapidement d'entreprendre, en fait.
Oui, alors, ils sont très pauvres. Hein, c'est des personnes qui sont arrivées aux États-Unis sans le sou, donc il faut travailler tout de suite. Hein, y a pas vraiment de quoi financer une scolarité ou de longues études. Donc, la famille bouge un petit peu aux États-Unis, au Canada. Alors, le père, tantôt... travaillent dans le négoce de la fourrure, tantôt dans les chaussures. Enfin, c'est, voilà, ils font vraiment un petit peu ce qu'ils peuvent et ils essaient différents métiers pour tout simplement gagner leur vie. Ils vont, les quatre frères, hein, petit à petit, quand ils vont grandir, vont commencer à se lancer un petit peu dans les affaires. Donc, ils expérimentent dans différents secteurs. Ils vont vendre des chaussures, ils vont vendre de la viande, ils vont réparer des vélos. Enfin, ils vont même ouvrir un bowling ensemble. Et bon, ça marche pas très bien à chaque fois.
Mais ils ont ce don, enfin, cette fibre entrepreneuriale.
Oui, cette fibre entrepreneuriale, mais qui est peut-être aussi un peu poussée par la nécessité. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est des entrepreneurs. Alors c'est des gens, voilà, on va le voir, très, très innovants et très entreprenants. Mais c'est difficile de savoir s'ils étaient entreprenants par goût ou par nécessité. Mais en tout cas, effectivement, ils entreprennent dans différents secteurs. Et alors, ça marche pas très bien, puisqu'à chaque fois ils essaient de nouvelles choses, jusqu'à ce que Sam, donc
Sam l'inventeur, hein, voilà, l'inventeur,
celui qui a toujours un peu les idées nouvelles, va découvrir le kinétoscope d'Edison.
Ah oui.
Puisque il faut bien voir que Thomas Edison, hein, le grand entrepreneur et inventeur dans l'électricité, le télégraphe, la lumière, etc., s'était mis aussi au cinéma, avait entrepris dans le domaine du cinéma. Et on va voir qu'en fait Edison a joué un rôle très important dans l'évolution de l'industrie cinématographique américaine. Donc il avait créé ce qu'on appelle le kinétoscope. Le kinétoscope, c'est une sorte de boîte dans laquelle on regarde un petit film par une fente. Puisque Edison se disait, bah, si je projette mon film sur un grand écran, il y a plein de gens qui peuvent le voir, alors que si je le mets dans une petite boîte, chacun est obligé de payer pour voir par la fente. Bon, c'était un très bon technicien, mais il n'avait pas forcément compris l'avenir du cinéma.
On en a déjà parlé dans nos précédents podcasts, il s'est vite fait devancer là-dessus.
Voilà, il s'est vite fait devancer, mais il a vraiment joué un rôle très, très important dans la naissance du cinéma. Donc Sam découvre le kinétoscope et il se dit, ben voilà, il sent qu'il y a quelque chose à faire. Donc il s'investit plus dans le cinéma naissant à l'époque, hein, et il va devenir projectionniste dans ce qu'on appelle un Nickelodeon. Donc le Nickelodeon, c'est le nom des premiers cinémas, hein, puisque le prix coûtait un nickel, le nom de cette pièce aux États-Unis. Et donc il devient projectionniste, et il va se dire avec ses frères, bah, en fait, là, il y a une industrie intéressante, on pourrait se lancer là-dedans, puisque l'idée, c'est de dire, quand on fait du cinéma, le client ne repart avec rien. Si vous faites de l'épicerie, il achète sa boîte de conserve, il repart avec sa boîte de conserve. Là, le client vient voir son film, il repart avec rien et je peux repasser le film autant de fois que je veux.
Oui, donc ils ont senti le filon dès le début.
Oui, donc là c'est vraiment Sam, hein, celui des quatre frères qui a lancé la fratrie dans le cinéma, et il se dit, il y a un filon à prendre, et donc la fratrie ouvre sa première salle de cinéma, donc ils mettent tout l'argent qu'ils ont, ils s'endettent pour acheter un premier projecteur.
Là, on est en 1903.
Voilà, on est en 1903, en Pennsylvanie, et ils ouvrent leur première salle de cinéma, et là, effectivement, ça marche, c'est le succès. Autant leurs expériences précédentes avaient été des échecs, autant là, vraiment, l'affaire prend, et ils se lancent à 100% dans le cinéma.
Mais ce n'est pas leur seul souhait, ils veulent pas rester des gestionnaires de cinéma longtemps comme ça.
Oui, alors ils ont vraiment un parcours, on l'a dit au début du podcast, hein, le parcours qu'ils vont avoir est vraiment similaire à la plupart de ceux qui ont fondé les grands studios hollywoodiens. Donc ils commencent gestionnaires de salles, ils ouvrent une petite salle, c'était très rudimentaire à l'époque, hein, c'était pas les salles comme on les connaît aujourd'hui.
Il y avait peut-être pas de pop-corn.
Non, il y avait sûrement pas de pop-corn, mais c'était souvent à l'arrière d'un café, on tendait un drap, on mettait quelques chaises, c'était assez embryonnaire, mais la demande était très forte, et ce que sont dit les frères Warner, c'est qu'il fallait qu'ils grandissent, et notamment, ils vont devenir distributeurs. Donc, il y a plusieurs étapes dans la fabrication d'un film, entre le moment où on fait le film et où le client vient dans la salle. Et leur premier business, ça a été d'être distributeur, donc d'acheter des films.
Un peu à tout le monde.
Un peu à tout le monde, voilà. Ils achètent plus de 200 en tout. Et après, ils les louent à des gestionnaires de salles. Donc, c'est comme ça qu'ils ont grandi dans le business. D'autres ont grandi en acquérant plusieurs salles. Il y a plusieurs stratégies.
Ils deviennent distributeurs, mais ils sont un peu déçus des films qu'ils distribuent.
Voilà, donc ils sont distributeurs, et puis assez vite, ils se disent, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement produire nous-mêmes nos propres films,
puisqu'en de meilleure qualité.
Voilà, de meilleure qualité, et puis ne plus dépendre aussi des producteurs, contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur.
Et oui, en plus, les producteurs de films, ils devaient les vendre cher, les films.
Oui, pour augmenter les marges, et pour avoir plus d'indépendance, et pour gagner de l'argent sur l'ensemble de la chaîne de production. Et alors, quand ils commencent à devenir producteurs, évidemment, ils se heurtent à Edison. Donc Edison qui avait un quasi-monopole, ou en tout cas une place totalement prépondérante sur l'industrie du cinéma à l'époque. Et comme tous les jeunes cinéastes de l'époque, en tout cas les jeunes entrepreneurs du cinéma de l'époque, ils entrent directement en concurrence avec Edison, qui essaie de les évincer, ou en tout cas de leur vendre ses films à des prix exorbitants, qui leur met entre les pattes tous les bâtons qu'il peut. Et c'est une des raisons qui fait qu'en fait, tous ces jeunes entrepreneurs du cinéma vont quitter New York. Au début, New York, c'est vraiment la capitale du cinéma américain, vont quitter New York pour la Californie. Et une des raisons, c'est que Edison était un homme de la côte Est, de New York, où il avait beaucoup d'influence, et en Californie, il connaissait beaucoup moins de gens, il avait beaucoup moins d'influence. Et donc ce mouvement du cinéma américain, c'est entre autres un mouvement pour fuir l'influence d'Edison. Alors, c'est aussi pour avoir un meilleur climat, puisque à l'époque, hein, rappelons que les films sont tournés avec la lumière naturelle, donc quand il pleut tout le temps, c'est pas très facile, il vaut mieux être à Los Angeles. Et aussi parce que les prix, notamment les prix des terrains, étaient moins chers à Los Angeles. Donc les frères Warner vont faire ce mouvement, en fait, de New York vers Los Angeles, notamment pour fuir l'influence d'Edison.
C'est un peu à cause d'Edison que la mecque du cinéma, c'est Hollywood.
Oui, en partie, oui. C'est sûr que si Edison n'avait pas eu cette influence sur la naissance du cinéma, peut-être que le cœur du cinéma américain serait resté à New York.
Donc il s'émancipe, il se lance dans la création de films. Le succès au début, il est plutôt modeste.
Oui, voilà, donc on est en 1918, hein, donc ils ont créé leur studio à Hollywood, hein, sur Sunset Boulevard. Alors, c'est pas les premiers, hein, il y avait déjà d'autres studios qui s'étaient installés à Hollywood quelques années plus tôt, mais ils suivent vraiment ce mouvement-là. Des premiers films, c'est vrai, avec un succès assez modeste, et le premier grand succès de la Warner Bros., hein, leur entreprise cinématographique, ça va être avec Le Chien Rintintin.
Un solide futur star.
Voilà, donc la grande star des débuts du cinéma, en tout cas la Warner, c'est un berger allemand, donc il avait été ramené par un soldat américain pendant la Première Guerre mondiale. Là, le studio a été créé en 1918. Donc,
même Rintintin est européen.
Voilà, mais même Rintintin est européen. Exactement. Et donc ce soldat avait ramené ce berger allemand qui était un chien très doué pour obéir. Et donc il lui faisait faire des petits numéros de cirque, de foire, etc. Et donc les frères Warner ont embauché, si je puis dire, ce chien pour tourner dans leur film. Et ça a été un énorme succès, donc notamment des westerns, hein, où Rintintin jouait un chien avec qui était un peu l'allié de l'armée américaine.
De la cavalerie.
Voilà, de la cavalerie dans le Far West.
Bah, c'est une vingtaine de films.
Oui, c'est une vingtaine de films, mais c'est vraiment ces films-là qui ont fait le succès initial de la Warner. D'ailleurs, Rintintin a une étoile, hein, sur Hollywood Boulevard, là où il y a sur les trottoirs toutes les étoiles de stars. Il y a une étoile pour Rintintin.
Et Rintintin est enterré en France, à Asnières.
Oui, alors c'est un chien qui a été ramené donc de France, hein, par un soldat américain. Il a été à nouveau enterré en France. Même s'il a son étoile à Hollywood, il a été rapatrié, si je puis dire, en France.
Donc grâce à Rintintin, ça y est, la Warner Bros., ça commence à rouler. Et c'est aussi aidé, évidemment, avec l'arrivée du cinéma parlant.
Oui, alors l'arrivée du cinéma parlant, qui est une invention de la Warner, et notamment de Sam, hein, on l'a dit, c'est lui qui est l'inventeur, le petit génie de la famille. Et donc, le premier film parlant de l'histoire du cinéma, c'est le Chanteur de Jazz en 1927. Donc, c'est un film de la Warner qui a un succès énorme. Et c'est une invention donc, de Sam Warner, hein, la technique qui permet d'associer le son à l'image. Et précisons que Sam Warner est décédé la veille de la sortie du film. Donc, il est décédé le 5 octobre 1927. Et le lendemain, le film sortait en salle et a été Il n'a pas pu voir son succès. Et il n'a pas pu voir non plus le deuxième succès qu'il avait initié, mais qu'il n'a pas pu mener jusqu'à son terme, qui était le cinéma en couleur. Hein, puisque deux ans plus tard, la Warner sort La Revue en folie, hein, un très grand film avec un très grand succès aussi à l'époque, qui est le premier film à la fois parlant et en couleur. Donc en fait, la Warner ne suit pas ces évolutions technologiques, elle les provoque. C'est vraiment c'est ce studio-là qui a insufflé cette évolution.
Même si au début, les autres studios ne suivent pas obligatoirement et continuent à faire des films en noir et blanc, et ils continuent à en faire un peu en muet, même si le muet va s'arrêter rapidement.
Oui, alors au début, c'est plus cher de produire en parlant et en couleur, donc c'est sûr qu'il peut y avoir un intérêt à continuer à faire du noir et blanc et du muet, mais bon, assez vite, la qualité et le goût du public fait que tous les studios vont devoir suivre, et on connaît tous, il y a plein de films en fait qui parlent de ce passage du cinéma muet au cinéma parlant, avec plein de stars du muet qui n'arriveront pas à s'adapter au parlant.
Et c'est la faute de la Warner.
Et c'est la faute de Sam Warner.
C'est ça. Les Warner Bros, eux, ils vont essayer de se spécialiser, et ils vont notamment se spécialiser dans les films de gangsters.
Oui, alors des films de gangsters, des comédies musicales, et puis après des dessins animés aussi. Donc, alors qui sont peut-être moins connus en France, les personnages, mais Bosco, Porky Pig. Donc,
Porky Pig, c'est connu.
Porky Pig, c'est connu, mais c'est sûrement encore plus connu aux États-Unis. Bugs Bunny aussi en 1940, qui est devenu l'emblème du studio, qui est peut-être un petit peu plus connu en France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces personnages de dessins animés, les frères Warner vont les utiliser pour se moquer et critiquer le régime nazi. Dès 1933, hein, Bosco fait une satire d'Hitler, puisqu'on rappelle que c'est des juifs polonais. Hein,
oui, c'est des fervents anti-nazis.
C'est des fervents anti-nazis. Ils sont évidemment très, très, très inquiets de voir les évolutions en Europe. Et donc le studio Warner, mais d'autres studios, hein, puisqu'on a dit beaucoup de studios ont été fondés par des juifs d'origine d'Europe centrale, Hollywood va être... majoritairement anti-nazi et plusieurs grands films de la Warner seront sur cette veine. Alors il y a eu La vie d'Émile Zola qui est un peu moins connu, mais bien sûr le plus connu en 1942, c'est Casablanca. Donc c'est un film qu'il faut voir si vous ne l'avez pas vu, donc qui se passe comme son nom l'indique à Casablanca pendant la guerre, donc Casablanca qui est sous le régime de Vichy, avec Humphrey Bogart qui grenouille au milieu de résistants, d'occupants allemands, etc. qui est le film qui va faire le succès de cette star à venir et qui est encore un des films les plus légendaires du cinéma et qui va insuffler quoi, qui va permettre à la Warner de continuer sur son succès, même pendant la guerre, à une époque où bah, évidemment les gens ont moins d'argent pour aller au cinéma et où l'industrie du cinéma s'essouffle un peu plus.
Ils faisaient des films qui étaient complètement des objets de propagande.
Oui, alors ils avaient clairement un message dans leurs films. Hein. Ils étaient farouchement anti-nazis et ça se ressentait dans leurs films et même dans leurs dessins animés. C'est-à-dire que ça fait partie des studios d'Hollywood et beaucoup d'autres l'ont fait aussi, qui ont clairement fait passer un message politique pendant la guerre, qui ont fait des films de propagande pour l'effort de guerre, pour souscrire des bons du trésor américain, etc. Ils étaient sans ambiguïté hostiles à l'Allemagne nazie et favorables à l'effort de guerre américain.
Après la guerre, c'est Jack, le petit frère, qui prend de l'importance.
Voilà, c'est Jack, donc le plus jeune, du coup, hein. qui prend de l'importance. Il va notamment lancer, ou plutôt relancer, la carrière de John Crawford, hein, qui avait 40 ans. Donc, tous les autres studios pensaient qu'il était trop âgé. Lui va miser sur elle, et ça en fera une grande star de la décennie à venir. Et puis, Jack va, en fait, évincer ses frères. Donc, il va y avoir une brouille très, très violente en 1956, puisqu'en fait, il gérait le studio au quotidien, mais il va évincer ses frères en faisant rentrer discrètement de nouveaux actionnaires. Donc là, il y a quoi, ses frères, les deux frères, hein, puisqu'on a vu que Sam est décédé. Donc là, il y a une brouille très forte, puisque les deux autres frères sont évincés de manière un petit peu cavalière. Ils ne se parleront plus, hein, jusqu'à leur mort. Et donc Jack...
C'est un truc de fou, ça.
Oui, le succès est né de la force de la famille, et sur la fin, la famille s'est complètement éclatée.
Explosé, quoi.
Plus personne ne se parlait, enfin, c'était un vrai nid de vipère. Et donc Jack va diriger le studio pendant 10 ans, jusqu'en 1966. Il décédera un peu plus tard, en 1978.
Sans que le studio lui appartienne vraiment, en fait.
Oui, parce qu'il avait fait rentrer des actionnaires externes, donc il dirigeait le studio, mais il n'avait plus le contrôle total des parts, parce que pour évincer ses frères, elle avait été obligée de faire rentrer de nouveaux actionnaires.
Et les frères décèdent un par un.
Voilà, les frères décèdent, Harry en 1958, Albert en 1967, et le studio, bien sûr, a survécu à ses illustres fondateurs, hein, on le connaît aujourd'hui, notamment les adaptations d'Harry Potter, il y a eu Dark Knight et d'autres très grandes productions hollywoodiennes.
Donc tu l'as dit, le studio Warner Bros, évidemment, il va survivre aux quatre frères, et il continue, tu nous l'as précisé, à rester un des leaders mondiaux du cinéma. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
Je rappelle Sylvain que cette histoire est tirée de ton livre « Entrepreneur de légende du cinéma » qui est donc une sorte de hors-série de ta série de livres « Entrepreneur de légende » où là tu parles de l'histoire du cinéma et ça aborde notamment l'histoire donc de ces papes de Hollywood qui ont tous un peu le même profil. N'hésitez pas à aller le lire parce que vous allez apprendre plein de choses et vous allez voir les similitudes entre tous ces créateurs. C'est évidemment aux éditions Hendrik B. Vous pouvez réécouter tous nos podcasts sur toutes les bonnes plateformes audio, sur internet ou même sur CDI Podcast. Et nous, pour finir, on va changer un peu notre phrase de fin. On va vous dire that's all, folks.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.